on a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
L'anarchie, c'est plus lutter contre les dominations.
C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est...
Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire d'A, le podcast des émancipations. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A. Aujourd'hui, nous allons parler d'anarchie et d'Italie. Avec Isabelle Felici, qui est professeure en études italiennes. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Je suis tombé sur un de tes travaux qui parlait de Cecilia dans un colloque qui s'appelait « Colloque vivre l'anarchie, expérience communautaire et réalisation alternative anti-autoritaire ». Beaucoup trop de A pour mon podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que je lisais quelque chose sur Cecilia. Et donc, je t'ai contacté, tu as eu la gentillesse de me répondre. Qu'est-ce que c'est Cecilia ?
Alors, on dit peut-être plutôt la Cecilia dans les milieux, voilà, puisque c'est une colonie, comme on disait à l'époque, en fait une communauté d'anarchistes italiens, au départ, qui s'est montée au Brésil, donc on va parler d'Italie et de Brésil, en 1890, et qui a duré quelques années, qui a fonctionné pendant plusieurs années, et dont on continue la preuve à parler aujourd'hui. Voilà, donc expliquer le nom de la communauté, le fondateur de cette colonie Cecilia s'appelait Giovanni Rossi et il avait écrit un roman utopique dans lequel le personnage féminin s'appelait justement Cecilia et je pense que de façon assez naturelle, ce personnage féminin qui était imaginaire a donner son nom à la colonie qui, elle, est devenue effective en 1890 au Brésil.
Alors, c'est qui ce Giovanni Rossi, comme tu dis?
Alors, c'était un... Il était d'une famille relativement aisée. Donc, ça veut dire que, tout simplement, il a fait des études. Il était à la fois vétérinaire et agronome. Et puis très jeune, il est devenu internationaliste, c'est-à-dire qu'il a adhéré à la Première Internationale. Et déjà, disons, sous le sceau de cette idée de communauté qui l'a accompagné en fait toute son existence. Alors, c'était le tout début du mouvement anarchiste qui ne se dissociait pas du mouvement socialiste. Si tu veux, on était anarchiste et aussi socialiste. C'est plus tard que toutes ces différentes étiquettes se sont simplifiées. Et lui, son idée, en fait, c'est alors que il y a eu cette scission dans les années 1870, son idée à lui, c'était de choisir une troisième voie qu'il a appelée socialisme expérimental. Et donc, toute sa, on peut dire, à la fois sa pensée et sa pratique s'est construite autour de cette idée de communauté et de faire de la propagande par le fait, non pas par des actions violentes, mais par le fait, c'est-à-dire par des réalisations qui pourraient montrer quelle était la bonne voie pour une société juste, équitable, libre, socialiste, anarchiste.
Quand tu dis scission, c'est une scission au sein justement du socialisme, entre les socialismes anarchistes et qui d'autre ?
Alors, c'est pas vraiment mon domaine, mais je renvoie simplement à l'histoire de la Première Internationale, où il y avait des personnes qui ont suivi Marx et d'autres qui ont suivi Bakounine. Et puis, 1872, en fait, il y a eu cette scission-là. 1872, c'est à peu près l'époque à laquelle lui-même s'inscrit à l'internationale. C'est la naissance de l'international anarchiste à Saint-Imier. Je simplifie à l'extrême, juste pour recadrer le contexte.
Ok, très bien. Mais lui, tu me dis qu'il est vétérinaire et en même temps agronome, mais il est à l'international. Alors que moi, dans ma vision, dans l'international, c'était des ouvriers et des ouvrières. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?
En fait, des ouvriers et des ouvrières. Alors, Je ne sais pas si j'ai toute la réponse à cette question, mais disons que dans les milieux, on va dire, que les anarchistes appellent autoritaires, c'est-à-dire chez les marxistes, souvent on va reprocher aux anarchistes d'être des bourgeois. Kropotkine, c'est un prince. Bakounine, il était aussi d'une famille noble. Et justement, de ne pas avoir su attirer la classe ouvrière. Bon, ce qui n'est pas vrai, mais en même temps, il est vrai aussi qu'il y a moi je parle surtout pour l'Italie, des gens de bonne famille qui ont fait des études et qui se sont sensibilisés aux questions sociales. Et en Italie en particulier, dans ces années 70, en fait, il y a une grosse présence anarchiste, parce que Bakounine a été envoyé en Italie justement pour faire connaître l'international et former d'autres internationalistes qui vont à leur tour voyager, par exemple en Espagne. Donc ça marche un peu comme une sorte de réseau qui se crée. Et donc il y en a d'autres. Il y a un autre nom qui me vient à l'esprit, Niccolò Converti, qui va ensuite lui aller devoir s'exiler en Tunisie, il ne peut pas rester à Naples. Enfin, il y a vraiment cette classe d'intellectuels, mais en même temps qui ont une profession libérale, qui se préoccupent de la question sociale, non pas pour dire aux gens non pas pour faire à leur place, mais pour rompre avec la société telle qu'elle fonctionne, en Italie en particulier, avec des différences sociales énormes entre les plus pauvres et les plus riches. Donc il y a aussi cette présence-là on peut les appeler intellectuels, profession libérale, qui deviennent anarchistes.
Et est-ce que c'est justement une époque où la question de la communauté, de partir monter des communautés, ou de même créer des communautés, est très présente en Italie ?
C'est pas une invention de Giovanni Rossi, cette histoire de communauté. Alors, il y en a qui remonteraient à la Renaissance. On peut faire remonter par le biais de l'utopie. Qui existe, c'est une idée qui existe depuis au moins la Renaissance, ou certains voudront peut-être même la faire remonter avant. Il y a eu aussi un gros mouvement de Français vers les États-Unis, vers le continent libre en quelque sorte. Parfois il y avait des connotations religieuses, mais parfois non. Il y a eu toute une série de romans utopiques, pas forcément politiques d'ailleurs, où on imaginait la cité idéale. Donc Giovanni Rossi a beaucoup lu sur le sujet. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il a vraiment construit sa pensée autour de cette idée, et il a aussi beaucoup écrit et publié. En particulier, en plus de son roman utopique, il a publié un journal qu'il a appelé l'expérimental, où il recense toutes les expériences passées qui, même dans l'Antiquité grecque et latine, ou chez les peuples qu'on dit primitifs, je fais des guillemets qu'on ne voit pas au micro, d'un passé aussi plus récent, par exemple les colonies icariennes, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, ou même actuel. Je disais tout à l'heure, quand il s'est inscrit à l'international, il avait monté un projet de communauté à Tahiti, je crois. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui l'avait interpellé. Comment il y est arrivé la première fois, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut retracer quand même sa bibliographie, en particulier grâce au journal qu'il a publié. Donc il a trouvé vraiment beaucoup de choses, à la fois dans le temps présent, pas seulement en Italie, qui vont alimenter sa pensée, et aussi à la fois dans les temps passés. Donc c'est pas une nouveauté extrême. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que c'est pas pas tellement le, on va dire, la tasse de thé ni des anarchistes ni des socialistes de l'époque, surtout ni italiens ni français par exemple. Il y a beaucoup de grands noms qui vont s'opposer à cette idée de colonie. Élisée Reclus par exemple, ou Malatesta surtout pour l'Italie, qui en gros va, une fois que l'idée de la Cécilia va commencer d'ailleurs à être mise en pratique, utiliser le mot de déserteur à son égard, ce qui va d'ailleurs beaucoup le toucher, on le sait d'après ses écrits, puisque non seulement il a écrit avant, mais il a fait aussi plusieurs comptes rendus après, même à plusieurs époques, jusqu'à assez tard dans sa vie en fait. Donc à la fois c'est de l'époque, de son époque, et en même temps il y a une filiation, on va dire, et puis ça existe encore aujourd'hui, comme tu le sais, au moins aussi bien que moi, peut-être mieux.
Non, je crois pas. Oui, Malatesta, donc il y a un penseur italien assez connu dans le monde anarchiste. Lui, il va l'appeler déserteur parce qu'il a l'impression qu'il ne fait pas la lutte ici, mais qu'il fuit et qu'il va... Enfin, c'est quoi le cœur de sa critique ?
Alors, il a écrit un article un peu en réponse aux appels que Giovanni Rossi a envoyé à peu près à toute la presse anarchiste et aussi socialiste de l'époque. Comme je le disais, il essayait de trouver cette troisième voie, donc il a cherché des appuis des deux côtés. Et devant, forcément, c'est tombé entre les mains aussi de Malatesta, qui... en substance, il faudrait que je relise l'article, d'ailleurs je vous y invite, ça doit même être traduit en français, il reproche à la fois effectivement de déserter les rangs de la lutte sociale au moment où on en a besoin, puisque la révolution c'était quand même pour le lendemain, et en même temps d'appauvrir les rangs des militants qui pouvaient être présents sur place et notamment en Italie. Donc c'était en substance, c'était ça là. Et il y avait d'autres types de reproches. En fait, ceux qui n'étaient pas tout à fait opposés, mais qui quand même ne se soutenaient pas tellement ce genre de projet, disaient que c'était voué d'avance à l'échec dans la mesure où ces personnes essayaient de s'extraire d'un monde qui finalement dont on pouvait finalement jamais vraiment s'extraire, et c'est un petit peu ce qui s'est passé en effet, c'est-à-dire que le poids économique, les difficultés pratiques ont pesé beaucoup sur cette expérience. Donc c'est un peu, certains pensent que c'est un peu même illusoire dès le départ, c'est un peu la position d'Élisée Reclus. Donc il y avait beaucoup d'énergie à dépenser pour convaincre les gens de partir ou de le rejoindre.
Et alors pourquoi c'est le Brésil ? Pourquoi il se retrouve au Brésil ?
Alors pourquoi se retrouve-t-il au Brésil ? Tout simplement parce qu'il vient d'Italie, qui est une terre de grande émigration. C'est la période de la grande émigration à l'époque. Bon, là aussi je vais faire une synthèse extrême. D'abord, comme tout émigré, moi je précise que donc, j'ai travaillé sur les questions anarchistes et toujours en lien avec les questions migratoires. Et donc je pense que c'est pas ce qui s'est toujours fait dans les milieux anarchistes d'ailleurs, mais je pense que ça m'a aidé aussi à appréhender certaines questions, comme celle de la Cécilia d'ailleurs d'une manière un petit peu différente. Comme tout émigré, il avait d'abord l'idée de faire quelque chose chez lui et ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs expériences sociales et agricoles dans plusieurs endroits en Italie, en particulier en Italie du Nord, là où il était, il avait un statut de un peu vétérinaire. D'une organisation, enfin du territoire en quelque sorte, et il a trouvé un propriétaire terrien, il en a fait plusieurs, hein, mais par exemple, il a trouvé un propriétaire terrien qui lui a mis à disposition ses terres, hein, et avec d'autres anarchistes ou socialistes, il a réussi à monter, il a fait plusieurs expériences dont certaines ont bien marché du point de vue agricole, mais jamais, selon lui, du point de vue politique. Et donc, puis quand ça ne marche pas chez soi, ben, en particulier dans l'Italie de cette période, là on est dans la fin du 19e siècle, eh bien on va voir ailleurs. Et comme beaucoup de gens vont voir ailleurs, leur première idée, c'était d'aller en Uruguay, tout simplement parce que... comme je l'ai dit, il avait étudié, c'était un agronome, il avait compris que le climat dans l'hémisphère sud, en particulier dans les terres de la Plata, pour l'Uruguay, l'Argentine et le troisième, maintenant j'ai oublié, excusez-moi, était un climat proche de celui qu'il connaissait. Donc il saurait quelles plantes utiliser, etc. C'était plus proche de ses connaissances. Et puis, même s'il n'y avait pas de réseau de communication très rapide, il y avait des réseaux de communication, en particulier dans les questions migratoires. On voit bien que les gens ne partent pas n'importe où. C'est-à-dire, s'il y a une crise en Argentine, ben, on arrête d'aller en Argentine. Et le Brésil, en particulier, faisait beaucoup de publicité pour faire venir des gens et avait notamment mis en place un système de financement du voyage. Donc, tout simplement... ils ont pu voyager gratuitement aux frais du gouvernement brésilien. Et ils étaient accueillis, avec tout un système comme à Ellis Island. C'est-à-dire qu'ils étaient accueillis dans une sorte de centre de... dismistamento, le mot ne me vient pas en français, comme un centre d'accueil où ensuite les gens partent chacun dans... Voilà, et donc eux, ils voulaient d'abord aller... C'est lui qui raconte tout ça, hein, je vous assure que je n'invente rien. Ils voulaient d'abord aller à Porto Alegre, puisque c'était plus près de cet endroit qu'il avait identifié au départ. Et puis, ce qu'il raconte, c'est qu'il y avait... Donc, ils sont arrivés à Rio, ils sont restés dans ce centre d'accueil, et de là, ils devaient repartir pour faire tout le long du littoral brésilien pour arriver à Porto Alegre. Bon, c'était quand même déjà la traversée de transatlantique, c'était bien 3 semaines. Et il fallait encore rajouter une petite semaine, je sais pas, 4-5 jours pour faire cette nouvelle aventure en bateau. Et ce qu'il raconte, c'est qu'il y en avait un d'entre eux qui souffrait tellement du mal de mer qu'ils ont décidé d'abréger ses souffrances et donc de descendre plutôt au port qui correspond à Curitiba, au Paraná, dans cet état du sud, mais un peu plus près que Porto Alegre. Voilà, tout simplement... pour cette raison-là, et il savait que là aussi, il y avait un autre centre, donc cette fois local, d'immigration et de colonisation, c'est comme ça que ça s'appelait, du gouvernement brésilien, et on leur a attribué des terres qu'ils devaient payer une somme très modeste de façon par traite, enfin, pour devenir propriétaire de ces terres, comme faisait, c'est pour ça qu'on utilise le mot colonie, puisque c'était l'époque de la colonisation de ces terres brésiliennes qui étaient désertées en fait, puisqu'ils avaient déjà s'étaient débarrassés de tous les autochtones et il fallait faire venir des bras pour travailler ces terres, tout simplement.
Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver une bibliographie liée à cet épisode sur le site histoirdalepodcast.fr. Petite pause musicale dans l'interview d'Isabelle. En écoutant des vieilles chansons populaires italiennes anarchistes.
L'eco dalle foreste, dalle città insorte al nostro grido, or di vendetta sì, ora di morte, liberiamoci dal nemico. Allerta compagni, dall'animo forte, a noi non ci turbino il dolore e la morte. Allerta compagni, faremo l'unione, e viva la rivoluzione. Ti lascio Italia, terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare e formeremo una colonia
sociale. E tu borghese, ne paghi il fio, tutto precipita, repatria Dio. E l'anarchia, forte e gloriosa, e vittoriosa, trionferà la nostra causa. E noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi, saremo uguali, la nostra idea trionferà.
Si vous aimez le podcast Histoire d'art, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant sur la plateforme de micro-dons réguliers Tipeee.com, T-I-P-E-E. Et donc il fait un recrutement en Italie de gens en leur disant « Voilà mon projet de communauté anarchiste, venez avec moi, on part au Brésil. » Et il trouve des gens pour faire ça.
Ben oui. Alors déjà, il part avec un petit groupe de personnes dont on trouve les noms tout simplement sur le registre du bateau qu'il a pris et qui est arrivé en février 1890. Ou... Non, ils sont partis en février 90 et arrivés en avril 90. Alors pour les dates, je mets une astérisque tout de suite, il faudra peut-être vérifier si je ne dis pas des bêtises, donc je travaille avec ma mémoire, mais je crois bien que ce sont les bonnes dates. Et donc ils étaient peu nombreux, ils ont recruté quelqu'un en chemin sur le bateau, je crois une famille d'Espagnols si je me souviens bien, là c'est aussi c'est lui qui raconte tout ça, hein. Et d'autres personnes devaient les rejoindre. Et finalement, ces personnes ne sont pas venues. Donc, ce qu'il a fait, c'est que dès octobre 90, donc de la même année, il est reparti en Italie et il a fait tout un plan de campagne de communication. Bon, j'utilise un, c'est pas du tout ironique, mais franchement, oui, il a pu republier notre version de son ouvrage, de son roman utopique. Il a fait des conférences. Il a publié dans toute la presse, même y compris dans la presse non anarchiste, pour essayer de faire venir des gens qui c'était pas très compliqué de trouver des candidats à l'émigration, puisque il y avait des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui quittaient l'Italie. Mais il fallait quand même des personnes qui seraient à même d'accepter la mise en place de principes anarchistes. Donc oui, il en trouve. Après, ces personnes qui le recrutent arrivent avant son retour. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pour la colonie, c'est que tout le monde arrive d'un coup. Donc 150 personnes qui arrivent d'un coup dans un endroit où, qui n'est pas prévu pour. Là, il faut quand même reconnaître aussi le courage, Les opposants au système communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure reconnaissent le courage qu'il faut quand même pour arriver dans un endroit. Je crois qu'il y avait une cabane en bois. C'était pas cultivé, donc il fallait rendre les terres cultivables, même si ce sont des terres fertiles pour X raisons, sûrement géographiques. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Parfois, dans les familles ou dans les personnes, ce sont les plus militants qui partent, mais peut-être pas les plus savants, toujours entre guillemets, du point de vue agricole. Donc là, il y a tout un travail à faire. Et 150 personnes d'un coup, c'était trop pour la colonie, et trop tout en même temps. Donc simplement, il fallait trouver à manger et nourrir tout ce monde-là. Et j'ai pas évidemment tous les détails au jour le jour, mais c'est pas très difficile quand on remet ensemble les différents comptes rendus de voir que c'était trop, tout simplement.
Et c'est quoi alors les principes de base que Rossi va mettre sur la table? Et puis j'imagine que ces principes-là, il va les discuter avec les gens qui sont là, parce qu'autrement, c'est pas très anarchiste. Mais c'est quoi le cadre général que cette communauté va se donner?
Alors là, je vais pas faire non plus tout un cours sur les valeurs anarchistes, mais l'idée, d'ailleurs, c'est peut-être un problème dans la mesure où il était vraiment au cœur de l'idée, mais en même temps, il voulait pas se poser en chef, bien sûr. Mais il y a eu, là aussi, c'est dans ses comptes rendus, différentes façons de comment dire, concevoir l'application des principes anarchistes. C'est-à-dire que certains avaient une tendance à... Bon, il y a des gens qui ont étudié ça très bien, hein, comment des leaders secrets... est-ce que ce sont des personnalités dominantes ou est-ce que c'est le contexte qui fait que... Enfin, certains veulent imposer leurs idées, d'autres refusent justement qu'on leur donne des ordres ou se mettent pas... Bon, ça a été beaucoup mieux étudié et c'est des problématiques qu'on trouve à peu près dans toutes les communautés. Mais en même temps, c'est très courageux parce que, bien sûr, c'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Mais il faut discuter longtemps pour arriver à trouver un accord. Mais parfois, en particulier quand toutes ces familles sont arrivées d'un coup et que ben, les gens ont eu faim, Giovanni Rossi raconte que ben, certaines femmes, certaines mères prenaient de la nourriture pour ne donner qu'à leurs propres enfants et pas à tous les enfants. Enfin, il y a eu des choses de cet ordre qui, alors qu'il était franchement pas du tout misogyne, comme on peut le voir dans son premier roman utopique. Là, c'est sûr qu'il en a voulu à beaucoup de femmes, je pense, et à la famille. Alors qu'il avait une idée de la famille, disons, relativement conventionnelle, encore dans son roman publié avant La Cécilia, là, au contraire, il devient un ennemi farouche de la famille, qui est vraiment l'ennemi des principes anarchistes. Donc, c'est surtout la mise en... C'est pas tellement les principes eux-mêmes sur lesquels on n'arrivait pas à se mettre d'accord. En même temps, il n'y a pas eu de charte. Il n'y a pas eu, comme on le voit maintenant dans certaines communautés, où il faut mettre une charte, signer. Enfin, il y a différents... Chacun choisit sa façon de... Chaque communauté choisit sa façon de faire. Mais là, ce qui est sûr, c'est la mise en pratique qui a été difficile.
Mais il n'y a pas une charte au début où Rossi, quand il fait sa campagne de communication en Italie, où il explique que, je ne sais pas, les terres seront possédées en commun, que, enfin, il n'y a pas des principes généraux qui sont quand même... Enfin, c'est-à-dire lui, comme il a envie de faire une expérimentation, j'imagine qu'il réfléchit avant à ce qu'il aimerait voir, non ?
Oui, mais en même temps, c'est plutôt dans les petites choses pratiques que ça pose problème. Par exemple, s'il faut se lever tôt pour aller au champ, pour faire tel travail, et qu'il y en a qui dit que, ben tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire, est-ce qu'il faut l'obliger, pas l'obliger ? Enfin, c'est plutôt dans ces choses-là que ça pose problème. D'autant plus qu'il y a eu un moment où vraiment, il n'y avait pas assez d'argent, et toute une partie des hommes sont allés travailler sur les routes du gouvernement pour ramener au moins de quoi nourrir tout le reste de la communauté. Donc là aussi, ça, lui, il n'a pas fait. À un moment, il a essayé de mettre à profit ses savoir-faire comme vétérinaire agronome. Et puis, il y avait aussi toute une situation politique quand même très instable au Brésil, puisque c'était une toute jeune république depuis 1889, et une république oligarchique avec des guerres entre familles nobles qui se bagarraient pour avoir le pouvoir. Donc, ils se sont retrouvés aussi au milieu de ces histoires-là. Donc, il y a eu un moment... Alors là, il en dit assez peu, mais il y a eu un moment où il a suivi une de ces, je vais dire, factions. Alors qu'il était vétérinaire, il les a suivis, bon, pour gagner sa vie, comme médecin. Et il raconte, je faisais ça, c'est quand on n'a pas de cheval, on prend un âne. En gros, c'est comme ça qu'il raconte. Donc, pour dire, il y avait vraiment des problèmes pratiques à gérer. Mais cet endroit, moi, je ne suis pas allée malheureusement dans cet endroit, mais j'ai envoyé j'ai eu une envoyée spéciale, une collègue brésilienne, Christina, que je salue, qui est allée sur le lieu, pas seulement pour moi, elle avait aussi envie de le voir par elle-même, puisque elle n'avait jamais vu. Elle m'a envoyé tout un reportage photo que j'ai mis sur un site dont peut-être je pourrais donner le lien. Et c'est encore aujourd'hui, c'est au milieu de nulle part. Il faut prendre une route qui n'est pas goudronnée, au milieu des champs. Enfin, c'est vraiment un endroit perdu, perdu. Donc,
il y a encore des vestiges ?
Alors, de ce qu'elle m'a raconté, Et de ce que j'ai vu sur les photos, ça remonte à quelques années, hein, son voyage, il y avait une sorte de mémorial. Et donc, toujours d'après les écrits de Giovanni Rossi, on sait que, bon, au départ, il y avait une cabane en bois. Ils ont construit d'abord une sorte de hangar. Et d'ailleurs, il y a une photo, la seule photo, je pense, vraiment de la Cecilia. Les autres que vous voyez en ligne, à mon avis, ce ne sont pas des vraies photos de l'époque. Je vous le dis tout de suite parce qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question. Donc, il y a cette période avec les hangars. Et ensuite, ils construisent, quand les familles arrivent en particulier, ils construisent des petites maisons. C'est ça qui a été reconstruit il y a peut-être une décennie ou quelques années. Il y a ce mémorial qui fait partie d'ailleurs d'une étape de tourisme rural. Ça rentre dans la colonie Cecilia, ça rentre dans une étape de tourisme rural. Bon, moi, je n'ai pas fait cette expérience, mais... Et d'ailleurs, des descendants, en particulier des derniers qui sont restés, parce qu'après la grosse arrivée de 150 personnes, c'est là qu'il y a une période de, je pense, au moins 2 ans à environ 30-40 personnes. Et là c'est là que le cœur de la Cecilia, si vous voulez, a vraiment fonctionné. Et d'ailleurs, Giovanni Rossi n'est pas resté jusqu'à la fin, mais en tout cas, les descendants de certaines de ces personnes-là sont toujours, que je sache, exploitants agricoles, font du vin. Et on voit, là aussi j'ai mis les photos sur le site, on voit le A cerclé de Cecilia. Enfin voilà, donc c'est vraiment une étape qu'on peut faire. Si vous avez envie de faire une vacance originale, ça peut marcher, voilà.
Et donc, parce que c'est ça qui est assez intéressant, il y a un mémorial, mais parce qu'en fait, la Cecilia va avoir une renommée et va gagner en mythologie presque, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des siècles même, parce que ça reste un endroit mythique. Qu'est-ce qui fait que cet endroit va rayonner autant dans le monde ?
Alors, il faut voir de quel côté de l'Atlantique on se place, parce que l'histoire est un petit peu différente. Donc, au Brésil, il y a un romancier de São Paulo qui s'appelle Alfonso Schmidt, qui a connu pas mal d'anarchistes italiens, et non italiens d'ailleurs, jusqu'en 1919 en particulier, se plonge dans l'histoire de l'anarchisme au Brésil et qui découvre en particulier, je pense que c'est un article de 1932 d'Alessandro Cerchiai, qui n'était pas membre de la colonie Cecilia, mais qui avait voulu déjà un petit peu faire une enquête. Il avait rencontré les fameuses personnes qui étaient descendants des membres, et il avait publié ce texte. Et il faut bien voir aussi que dans les années 30, le Brésil entre dans une période de dictature aussi. Donc, et cette république oligarchique était quand même pas un modèle de démocratie, on va dire. Donc, il y a par revers la figure de l'empereur qui avait abdiqué. Devient l'empereur, le modèle, qui serait le modèle du démocrate, contrairement à ses républicains oligarches. Et donc, il va faire des recherches des deux côtés. Il essaye d'écrire d'ailleurs à Giovanni Rossi, mais c'est la guerre à ce moment-là, donc ils ont du mal à communiquer. Et il trouve, j'ai fini par remonter à l'origine de cette légende, puisque vous avez peut-être lu, enfin c'est une des versions les plus connues, que c'est l'empereur qui aurait donné des terres, ouvert les bras à l'anarchie, aux anarchistes. Alors que ça ne correspond pas au niveau des dates. 1889, c'est la fin de la fin de l'Empire, et la colonie Cecilia ne commence qu'en avril 1890, si vous avez bien suivi les dates. Donc... mais ça marche mieux avec l'image de l'empereur, justement pour faire contrepoids à ce système autocrate qui est en place. Et donc, il rencontre tout simplement, Rossi. Rossi, c'est comme Durand, en quelque sorte. C'est un nom de famille, un patronyme très fréquent. Et comme il y a énormément d'Italiens qui ont émigré au Brésil, il y en a pas mal qui s'appellent aussi Rossi. Donc, ce Schmitt en rencontre un. Qui, je pense que c'est vraiment pour lui faire plaisir, parce que c'est un monsieur, il raconte, je crois, est-ce qu'il était, il avait un métier, est-ce que c'était ébéniste ou un métier d'artisanat ou de, enfin, j'ai oublié lequel, mais je le retrouverai facilement. Et donc, il était en contact avec le public et il aimait bien raconter des histoires, etc. Et il avait un parent... qui à Milan, et puis c'est lui qui a finalement eu l'idée, enfin je ne sais pas, peut-être qu'il l'a fait en toute bonne foi, mais de se dire que l'empereur qui est effectivement allé à Milan a rencontré un musicien brésilien, et de là c'est fait le il y a une histoire de médecin là-dedans aussi, enfin tout ça c'est très très logique, et sauf que à part le fait que l'empereur effectivement a bien été écouter un opéra, il n'y avait pas de lien entre Giovanni Rossi, qui n'était pas du tout musicien, sa fille dit de lui, je l'ai entendu dans un era stonato come una campana, ça veut dire il chantait faux, il chantait comme un pied, donc il n'a jamais été, en tout cas jamais en même temps que l'empereur du Brésil, ils se sont jamais rencontrés à l'opéra de Milan, qu'on voudrait le faire croire une jolie légende. Donc c'est ce conteur, on va dire, qui invente cette histoire. Et comme je l'ai dit, Alfonso Schmitt, c'est un romancier, donc il ne fait pas un livre d'histoire, il fait un joli roman qu'on peut lire en mettant des choses vraies, qu'il a vécu lui aussi, puisqu'il a fréquenté les anarchistes au moins jusqu'en 1919-1920. Et le problème, c'est que plus tard, donc par ailleurs, en Italie, on perpétue aussi une certaine histoire, on publie des documents d'archives, des rapports de police, on publie aussi des choses que Giovanni Rossi a écrites, donc on conserve quand même ça dans un milieu quand même un peu restreint, et il y a un historien brésilien, en tout cas qui se donne le nom d'historien, et qui prend ce roman, peut-être 20-25 ans après, comme une source, et donc le problème vient de là. Le problème vient de là, qu'une pièce, on va dire, de création, basée effectivement sur des éléments réels, mais remplie par des éléments narratifs pour construire une histoire, a été pris comme une source historique. Donc, voilà le problème. Et s'il y a certains historiens italiens, par exemple, qui ont fait l'histoire de la Sicilia avant d'avoir lu ce roman, et puis qui ensuite ont lu ce roman et ont changé, il devait être convaincant, ou c'est simplement parce que l'histoire était jolie, hein, l'empereur qui ouvre les mains aux anarchistes.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee. Petite pause musicale dans l'interview d'Isabelle, en écoutant des vieilles chansons populaires italiennes anarchistes.
Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato, e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà. Così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati, e allora nel cuor, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Soffrire.
ce roman va avoir une renommée importante, en fait, parce que là, tu me parles de cette question de est-ce que l'empereur a ouvert ses bras à Giovanni Rossi. Bon, j'imagine que c'est un point important quand on est historien et qu'on cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé à la Cécilia. Mais qu'est-ce qui fait que la Cécilia va recueillir cette aura-là ? C'est ce roman qui va lui donner une publicité, quelque part ?
Alors, est-ce que c'est ça, je vous avoue, sur la réception du roman, je ne suis pas sûre de pouvoir vous en dire beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été encore republié assez récemment en Italie. On m'a demandé d'ailleurs une recension. C'est juste un élément. C'est parce que tu me parlais de mythe. Donc là, j'ai essayé de synthétiser la naissance de ce mythe. Mais en même temps, alors par exemple en France, du côté français, il y a eu une chanson. Et en 1976, il y a eu un film par Jean-Louis Comolli, qui s'appelle La Cécilia, justement. Et quand je travaillais sur ma thèse, moi je travaille sur les anarchistes italiens au Brésil, sur la presse, et quand je disais ça autour de moi, on me disait « Ah oui, La Cécilia, est-ce que tu as vu le film ?» C'était en général des gens qui avaient une dizaine d'années de plus que moi, qui avaient vu ce film et qui les avaient beaucoup marqués, parce que c'était après 68, après... je vais monter mon élevage de moutons dans le Larzac, je vais sans ironie aucune, hein, ça existe encore, les communautés et les gens qui ont vécu cette expérience dans le Larzac. Et donc Jean-Louis Comolli, tout simplement, ce qu'il m'a raconté, il est tombé sur cette chanson qui s'appelait « La colonie Cécilia ». Et il a voulu en savoir plus. Et donc, c'est là qu'il a monté une bibliographie, d'ailleurs tout à fait légitime pour l'époque. Il n'était pas seul, d'ailleurs. Il y avait un Daniel, dont j'oublie le nom, qui a publié aussi tout le résultat et a traduit tout le résultat de cette bibliographie. Et ils se sont rendus compte de cette erreur de date, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Sauf que... Là, ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, mais parce que justement, l'idée de l'empereur à l'opéra, à la Scala de Milan avec les fauteuils rouges et l'empereur vêtu de noir qui parle avec Giovanni Rossi également vêtu de noir, c'était fort comme image. Donc, tout simplement, parce qu'il y avait cette contradiction de date, ils l'ont attribué à un mensonge de la part de Giovanni Rossi qui ne voulait pas parler de l'empereur et ils ont décalé d'une année pour que ça soit quand même cohérent au niveau des dates. Donc, mais là aussi, ils ont fait un film de création. Ils n'ont pas fait un film historique, même s'il y a tout un tas d'éléments en dehors de cette... comment on peut l'appeler, ce gros changement chronologique. Il y a tout un... Si vous voyez le film encore aujourd'hui, je pense que, par exemple, sur la difficulté d'arriver dans un lieu vide qu'il faut faire vivre, sur la difficulté à mettre les éléments, à mettre en principe, enfin comment dire, sur les modalités dont on parlait tout à l'heure de mise en pratique des principes anarchistes, et puis aussi sur les questions liées à l'amour libre dont on va peut-être parler, il est tout à fait pertinent, d'autant plus que là aussi c'est Jean-Louis Comolli qui l'explique, qui sortait lui-même, où il était en plein au milieu d'une expérience collective au sein des cahiers du cinéma, et donc il mettait aussi beaucoup de choses qu'il avait vécues dans un autre contexte qui ont nourri la façon dont s'est monté le scénario. Donc, à part la scène finale avec l'empereur et sûrement des éléments liés au contexte historique, mais qu'ils ont arrangé aussi pour faire une jolie histoire qui fonctionne très très bien, je recommande encore toujours la vision du film, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un élément. Après, au Brésil, il y a eu une pièce de théâtre, par exemple, il y a eu un feuilleton. Vous savez, les feuilletons brésiliens, c'est une institution, donc il y a eu un feuilleton là-dessus. Un autre élément, c'est que la femme d'un grand écrivain brésilien qui s'appelle Jorge Amado, Zélia Gattai, était la petite-fille d'une famille de parmi les 150 qui sont arrivés. Et elle raconte aussi, alors elle a fait un récit autobiographique, auquel, en fait, elle ajoute des éléments pris chez les romanciers, historiens. Voilà, donc maintenant, je peux faire le lien. Là aussi, ça n'enlève pas du tout à la véracité de son récit. Par exemple, ses deux grands-mères, donc une anarchiste, on va dire, et l'autre catholique, ont toutes les deux perdu un bébé pendant la traversée. Hein, 3 mois, si vous avez le mal de mer, que vous êtes une femme et que vous nourrissez votre enfant, ben, votre lait, il n'y a plus de lait, tout simplement. Donc, toutes les deux avaient perdu un bébé qui est mort en arrivant. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment très... tout à fait plus que vrai, enfin criante de vérité. Et puis là aussi, elle a fait une autobiographie, mais en la nourrissant d'éléments qu'elle a cru en toute bonne foi récupérer chez les historiens. Donc il y a beaucoup de créations littéraires, cinématographiques, théâtre, la chanson populaire, comme je vous l'ai dit, et j'en oublie sûrement... qui continue, il faut croire que cet élément parle encore aux gens.
Bah, je pense qu'on va justement à un moment venir sur pourquoi ça parle. Mais alors, revenons un peu sur les difficultés pratiques dans la mise en œuvre des principes anarchistes dans la Cécilia. C'est la question de l'amour libre. Qu'est-ce qui va poser problème dans la communauté ?
Alors, l'amour libre, dans les écrits de... Alors, je parle à travers ce que j'ai lu de Giovanni Rossi et de ce que j'ai lu sur lui, en particulier par la police, qui souvent est très bien renseignée, comme vous le savez. Et là, on a des polices d'un peu partout, Brésil, Italie, voilà. Donc, on peut remonter quand même à pas mal de documents. Je me suis fait une idée comme ça, mais alors qui ne repose que sur ma propre intuition, qu'il est arrivé au Brésil, on va dire, garçon. Voilà, et qu'il avait une sorte d'image de l'idéal féminin qui était celui de son personnage, de son roman utopique. C'est-à-dire une femme ouverte à ses idées... comme je l'ai dit, avant la Cécilia, très conventionnelle sur le plan de la famille, etc. Dans son roman utopique, bon, les familles vivent ensemble, les enfants sont élevés dans des écoles, enfin, et les femmes travaillent, etc. Mais bon, voilà, il y a cette idée-là de la famille, on va dire, relativement traditionnelle. Et puis, quand ils arrivent au Brésil, tout simplement... Dans les pionniers dont je vous ai parlé au tout début, il y a une seule femme qui est, je crois, la sœur d'un des membres et la femme ou la compagne d'un autre. Donc, ça fait pas beaucoup de femmes dans un endroit où, par ailleurs, il y avait, je crois, une communauté, une colonie, pardon, de fermiers. Je crois que c'était des Polonais, des Russes, enfin, qui étaient plutôt pratiquants de leur propre religion. Et donc, c'était pas évident de se mélanger avec des anarchistes, d'autant plus qu'ils étaient, je pense, assez éloignés géographiquement. Donc, il y avait un problème aussi, tout simplement, numérique. Parfois, quand ils étaient rejoints, dans les 150, par exemple, souvent c'était des familles déjà constituées, donc où les femmes voulaient bien, est-ce qu'on leur a demandé leur avis, je ne sais pas, mais en tout cas voulaient bien partager l'expérience politique, mais pas aller plus loin sur le plan personnel, on va dire. Donc c'était tout simplement qu'il y avait plus d'hommes sur la Cécilia que de femmes et de compagnes, voilà. Donc, finalement, c'est mis en place ce que Giovanni Rossi appelle un épisode d'amour libre. Et contrairement à... Enfin, vous le savez comme moi, hein, quand c'est un homme qui a beaucoup de femmes, c'est un homme à femme. Et quand c'est une femme qui a beaucoup d'hommes, je ne vous fais pas de dessin. Elle est tout de suite plutôt mal vue. Donc, en fait, elle est d'accord pour mettre en pratique cette expérience, cet épisode d'amour libre. Donc, elle est arrivée sur la colonie elle-même avec, je crois, une histoire de mariage très lourd où elle subissait des violences physiques. Donc, elle s'est échappée de ce mariage et elle est venue au Brésil avec un compagnon anarchiste.
Tu parles de qui là en disant elle ?
Ben une des femmes de la présente sur la colonie qui s'appelle Adèle et que Giovanni Rossi dans son compte rendu appelle Eleda, c'est-à-dire l'anagramme de Adèle. Adèle. Et donc cette femme, il se monte une famille que Giovanni Rossi appelle polyandrique, c'est-à-dire avec plusieurs hommes dont lui-même fait partie, et ainsi que donc le compagnon d'Adèle et un troisième jeune homme qui n'est pas présent dans le compte-rendu, mais dont il parle dans ses lettres, dans la mesure où ce qu'il explique, en fait, c'est qu'il s'est vraiment livré à une véritable enquête sociologique, c'est-à-dire qu'il a monté un questionnaire qu'il a proposé à Adèle et qu'il a proposé à son compagnon, à lui-même. C'est bien fait dans le film aussi, hein, si vous voyez le film. Et en revanche, le troisième homme était absent parce que le compagnon... ne voulait absolument pas qu'il en soit question. Mais il le raconte très bien dans ses lettres, qu'il y avait ce troisième homme, qui, j'oublie son nom maintenant, qui a été un Français, je crois. Voilà. Donc, le problème était tel qu'on a écrit, par exemple, dans La Révolte ou dans d'autres journaux anarchistes, on a lancé des appels à des femmes qui voudraient bien rejoindre la colonie, et ça a fait des gorges chaudes, y compris dans la presse bourgeoise, on va dire. On s'est un peu moqué de ces anarchistes je vous passe un petit peu les détails grotesques et obscènes, assez proches de la vision très machiste du 19e, que Rossi ne partageait vraiment pas. C'est sûrement un des anarchistes les moins machos qu'on puisse rencontrer, hein, parce que bouchez-vous les oreilles, ceux qui nous écoutent, mais il y a quand même beaucoup de machos aussi chez les anarchistes. Voilà. Donc lui, franchement, ne l'était pas, et aussi bien dans ses écrits que dans l'idée que j'ai pu me faire en le suivant pendant quand même de longues années.
Comment se termine cette expérience de la Cécilia ?
Alors là aussi, il y a plusieurs façons de répondre. Je pense qu'elle n'est pas terminée. La preuve, c'est qu'on continue à en parler. Et que je pense que je l'ai dit tout à l'heure, donc Giovanni Rossi, toute sa vie, continue à s'exprimer sur les questions liées aux communautés. Il monte d'ailleurs parfois d'autres projets assez fantasques, mais bon, après, il revient en Italie et c'est la période du fascisme. Donc, il est peut-être un petit peu limité aussi dans ses possibilités d'expression. Bref, en tout cas, donc, moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment finie, puisqu'elle continue à servir, je ne dis pas de modèle, mais en tout cas, il y a des éléments sûrement qu'on peut puiser de toutes les expériences que j'ai faites de présentation, du livre, du film. Je pense sincèrement qu'on peut en retirer des enseignements pour aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Après, sur le plan pratique, donc on peut faire un bilan financier qui effectivement correspond à ce que disaient les détracteurs, c'est-à-dire que c'est vraiment difficile de tenir sur le plan économique de façon complètement... On dépend forcément du reste de la société. La preuve, là, ils devaient acheter des semences... ils ont eu aussi des petits problèmes parce que quelqu'un est parti avec la caisse. Ça, c'est lui qui le raconte. Je pense que ça aussi, ça peut éveiller des souvenirs chez d'autres membres d'autres communautés. Il y a eu un problème avec le bétail parce que quelqu'un avait monté un enclos qui n'était pas très solide. Et donc, les vaches ont abîmé la récolte de maïs et c'était la base de leur alimentation. Il y avait aussi une lassitude, on va dire, du point de vue alimentaire, parce qu'il n'y avait pas de pain. On pourrait croire, avec tous les stéréotypes qu'on a sur les Italiens qui manquaient de pâtes, mais non, c'est le pain qui leur faisait défaut, et que le maïs, même si on en mange aussi beaucoup en Italie, enfin, si c'est la base de l'alimentation, ben, c'est pas le plus nutritif. Il y avait un petit peu de viande, mais pas beaucoup, enfin, et quand même, enfin, il y en avait même trop à un moment, d'après ce que raconte Giovanni Rossi. Ils n'étaient pas habitués à une alimentation si carnée. Je pense à ça parce que j'ai fait un petit texte sur la cuisine à la Cécilia. Je pense que j'ai oublié de te le faire lire. Mais voilà, il y avait aussi cette lassitude. Après, ils tournaient à 30, 40 personnes, mais... toujours les mêmes personnes. Enfin, ça c'est, en revanche, il ne le dit pas. Hein. Donc, disons que le premier bilan qu'il fait à chaud, c'est, voilà, on a fait notre expérience, on a montré que c'est possible, l'expérience est faite. Point. Et évidemment, quand on lit ce qu'il écrivait avant, son idée, son objectif, c'était, voilà, on va faire une colonie agricole tellement prospère qu'on va pouvoir aider la lutte sociale en Europe. C'était l'idée. Mais ça, effectivement, ils n'ont pas pu le réaliser. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec. Du point de vue économique, bon, ils ont quand même, personne n'est mort de faim, même s'il y a eu des souffrances assez importantes et des histoires pratiques. C'est sûr que pendant, je pense, environ 2 ans d'après les recoupements qu'on peut faire, ils ont vécu à 30 ou 40 sur les bases qu'on a dites. Giovanni Rossi est parti un peu avant, et en 93, je crois. L'expérience a duré jusqu'en 94. Et là aussi, ils ont décidé de repartir chacun de leur côté. Est-ce légalement, ne me posez pas la question. Je n'ai pas la réponse sur à qui appartenaient ces terres. Là, je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que la colonie payait. Mais est-ce qu'il y avait un seul nom ou plusieurs noms? Là, j'avoue, je n'ai pas été sur place pour trouver ce document, s'il existe. Mais ce qui est sûr, c'est que d'anciens membres sont maintenant propriétaires de ces terres. Mais est-ce qu'ils sont partagés, etc. Là, je n'ai pas les détails.
Et Rossi, pourquoi il rentre? Pourquoi il dit qu'il rentre?
Alors, il ne rentre pas tout de suite. Il quitte la colonie. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrances liées aussi à cette relation polyandrique. Et donc, Adèle, ils ont eu des enfants, donc sans savoir qui était le père, évidemment, mais en même temps, ils le savaient bien. Puis, je pense qu'il y a une des filles qui était l'enfant du Français qui est parti. Il y a une petite fille qui est morte. Il y avait beaucoup de morts infantiles à l'époque. Et puis, il y a une autre qui est née, heureusement. Je crois que... Donc, Adèle a suivi avec ses enfants son compagnon. Mais il y a eu des problèmes aussi, je crois, d'alcoolisme. Est-ce que c'est de la mauvaise foi de Rossi? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, donc ils sont restés en contact évidemment, puisque c'était aussi ses filles. Et puis finalement, ils ont constitué une famille très conventionnelle. Et il a trouvé à s'engager comme agronome dans un institut au Brésil. Et juste en 1907, où là, ils sont rentrés, tout simplement, ils sont rentrés en Italie. Et puis pareil, il s'est engagé. Par exemple, il a travaillé, si certains connaissent la culture italienne, avec le père de Italo Calvino, qui était un botaniste de renom. Il a ensuite enseigné. Enfin, ils sont restés en famille pendant très longtemps. Et il y a un témoignage de sa fille qui a été enregistré, donc, comme je disais, dans cette période où l'Italie s'est intéressée à ce sujet, autour des années 60-70, et elle raconte qu'on n'en parlait pas, en fait, ses parents ne voulaient pas tellement parler de cette période-là. Et
Moi, j'ai l'impression que la question que pose toute cette expérimentation, c'est pas tant est-ce que ça marche ou pas, mais c'est est-ce que ça rend les gens heureux. Et là, de ce que tu me racontes, ça m'a eu l'air assez traumatique quand même.
Je ne sais pas, parce qu'évidemment, dans les lettres où il raconte tout ça, c'est des lettres où il est beaucoup tout seul, où il a trouvé un emploi un peu plus au sud, dans Santa Catarina, je crois. Il correspond avec un militant anarchiste autrichien qui va d'ailleurs faire un gros, j'ai oublié de le citer celui-là, il va faire un gros travail de recueil d'articles de toutes sortes qu'il va traduire en allemand. Et donc, il a ce contact avec Rossi. Il y a plusieurs lettres dont malheureusement, on n'a pas l'original, mais qui sont traduites en allemand. Il y en a une seule à Amsterdam, à l'Institut d'Histoire Sociale, en italien. Les restes, j'ai jamais retrouvé l'original, mais celle-là, elle est intéressante parce que justement, elle n'est pas dans le recueil de ce Sanft Leben, ce militant autrichien. Donc, il écrit des choses. Enfin, souvent, quand on écrit, c'est justement quand on n'est pas très heureux. Quand on est très heureux, est-ce qu'on a besoin forcément d'écrire? Donc, il y a peut-être un biais par ce moment-là. Je pense qu'ils ont été sincèrement heureux pendant ces 2 années, à 30 ou 40. Après, c'est difficile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui ont témoigné, ou alors qui reprennent les textes de Rossi lui-même. Donc là, enfin, puis je trouve que ce serait un petit peu abusé de ma part de dire « oui, toi tu es heureux, non, toi tu n'es pas heureux ». Ce que je peux dire, à propos du polyamour par exemple, beaucoup d'amis m'ont raconté leurs expériences au moment où ils y étaient, et c'est vrai que de mon point de vue, c'était très douloureux. Donc on peut peut-être transposer... avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais ce n'est pas la question essentielle. Enfin, c'est une question importante, mais ce n'est pas la question essentielle.
Mais donc, toi, tu trouves que ça pose plus la question de l'autarcie plutôt que de l'autonomie, par exemple ?
Oui, je pense vraiment que c'est multifactoriel. Donc, ce serait faux de dire qu'il y a un seul élément qui a causé... la fin de la Cécilia. Alors, dans la version de l'empereur, par exemple, c'est très commode, parce que là, on dit, oui, l'empereur avait donné les terres, et c'est la République qui a chassé les anarchistes ou qui leur a mis des bâtons dans les roues. Ça, en revanche, on peut dire que c'est faux, parce que on connaît, et grâce à la précision des comptes rendus de Giovanni Rossi, on connaît le montant qu'il devait payer chaque mois pour avoir ses terres, et on connaît aussi le montant de tout ce qu'il devait pour aller acheter des choses à la boutique la plus proche. Donc, et puis il y a eu cette histoire de vol de la caisse, et cette donc c'est sûr que c'est pas un, du point de vue économique, c'est pas, il n'y a pas un seul facteur. Donc, c'est une des réalités. Après, il y a cette histoire de désaccord sur les modalités de fonctionnement. Il y a cette histoire de comment trouver un assouvissement à ses besoins, disons les choses par leur nom, sexuel pour certains. Et vraiment, il y a le contexte politique. Ce serait vraiment fou de se limiter à un élément,
oui,
je crois.
Voilà. Et toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a parlé dans cette expérience ? Pourquoi tu as eu envie de faire ce travail-là ? Et qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience ? Qu'est-ce qui te semble le plus inspirant, ou le plus beau, ou le plus porteur ?
Oui, alors là, je dois te faire une précision, mais c'était pas du tout mon intention de travailler sur la Cécilia au départ, puisque moi, je m'intéresse à la presse anarchiste en italien, et en l'occurrence, pour ma thèse de doctorat. Là, j'ai un projet en cours sur la presse anarchiste en italien en France et dans d'autres aires francophones. Là, je travaille sur la presse anarchiste en italien au Brésil. Et justement, puisqu'on m'interpellait à chaque fois en me disant « Ah oui, la Cécilia », donc je pensais au tout départ faire, quand j'ai commencé à écrire le chapitre, hein, parce que je suis allée au Brésil, je suis revenue avec des tonnes de photocopies, j'avais mon sac plein de photocopies, et quand j'ai commencé à mettre le nez dedans, je pensais faire un petit chapitre introductif comme la préhistoire de la presse anarchiste au Brésil, puisque ça arrive quelques années avant le premier journal en italien. Et puis, je suis tombée sur toutes ces incohérences, c'est-à-dire que je lisais la première version de l'histoire chez un historien italien, j'ai lu la deuxième version qu'il avait changée, j'ai lu cette histoire j'avais déjà toute la bibliographie, mais je ne l'avais pas encore exploitée. Donc c'est en exploitant et en voyant cette incohérence que je me suis dit qu'il fallait en parler et qu'il fallait essayer de mettre fin à cette légende. Voilà. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai été, on va dire, confrontée à l'historien italien qui avait répandu cette légende en faisant foi. Et j'avoue que c'était un moment un peu, on va dire, intéressant, puisque j'étais quand même assez jeune à l'époque, toute jeune même, et que lui c'était l'historien par excellence, et qu'il est arrivé, on était au même colloque, où il arrivait avec le livret de l'opéra auquel avait assisté l'empereur, et je lui ai dit, l'empereur oui, mais Rossi non. Et lui, là, je ne l'ai jamais convaincu, et malheureusement il est mort pas très très longtemps après, mais voilà, donc pour dire, c'était épique comme moment. Donc c'était plus une obligation scientifique, intellectuelle, qu'un intérêt au départ. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Hein. Mais vous pouvez lire aussi mes travaux sur la presse anarchiste en italien.
Non mais ça, on va faire un épisode là-dessus, parce que ça, moi, ça m'intéresse à mort. Et puis de toute façon, j'adore cette idée que les anarchistes, où qu'ils soient, font de la presse et ont toujours ce ressort-là. Donc oui, non, ça, on fera un épisode là-dessus, c'est sûr. Les questions de communauté, elles sont toujours hyper vivantes, hyper présentes, et j'ai l'impression que tout le monde se pose toujours les mêmes questions. J'ai l'impression que tout le monde est toujours sur les mêmes écueils, et je me dis qu'avec le temps, on devrait quand même réussir à trouver des solutions pour sortir de ces écueils, mais qu'en fait, non. Donc comment tu comprends tout ça, toi ?
Moi, j'ai l'impression que, de ce que je vois de certains jeunes militants dans leur pratique, j'ai l'impression qu'ils savent faire de façon moins, comment dire, peut-être moins douloureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, au moment où on était tous enfermés, ou au moment où... Enfin, il y a des communautés qui existent encore, où on élève des enfants, où on survit, où on vit bien, même grâce à l'agriculture. Donc, il y a des gens qui réussissent à marcher, à fonctionner de cette façon-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'envie de viser l'éternité, quoi. Il me semble, hein, une des choses intéressante des idées anarchistes, c'est que on crée une entité, enfin je sais pas comment l'appeler, en fonction d'un besoin, souvent par groupe d'affinité, et donc si ce besoin continue, ben le groupe devrait logiquement continuer à fonctionner, et si le besoin se fait moins ressentir, et bien logiquement le groupe se transforme, évolue, se défait, etc. Donc je pense que l'erreur, c'est de voir justement l'idée de chercher le côté pérenne. Il me semble que ça, c'est en contradiction avec les idées anarchistes, en fait. Je ne sais pas si c'est... Donc il me semble que ce qu'on peut retirer de cette histoire aujourd'hui, d'abord, c'est que ben, au XIXe siècle, il y avait quand même des hommes, qui, y compris par les anarchistes, qui n'étaient pas trop... macho, on va dire. Ensuite, que, ben, comme aujourd'hui encore, certaines personnes ont envie de construire des choses ensemble, et que tant que c'est possible, c'est sûr avec des complications, parce que selon les personnalités, selon le contexte, selon, enfin, je pense que c'est même inutile d'essayer de faire une typologie. Après, il y a sûrement des choses très intéressantes à lire, c'est peut-être ce que vous ne trouverez pas dans mes bibliographies en tout cas, mais dans, moi je ne suis pas sociologue, hein, mais par exemple il y a des gens qui ont travaillé sur le nombre de personnes minimum selon lequel un groupe peut fonctionner ou pas, à partir de quand, de combien ça risque de basculer ou ça finit effectivement par basculer. Enfin, il y a des sortes des calculs qui ont été faits comme ça, qui pourraient sûrement... Enfin, je veux dire, les gens qui choisissent ce mode de fonctionnement aujourd'hui s'en inspirent. Donc, moi, je trouve que... Enfin, ce que j'en vois, et souvent de l'extérieur, ça c'est plutôt inspirant.
Ok, très bien. Donc, merci beaucoup, Isabelle. À bientôt pour parler de la presse anarchiste. Mais c'est de la presse anarchiste italienne en France, non ? Tu m'avais dit.
Voilà, la presse anarchiste en italien, publiée en France, et j'ajoute dans les aires francophones, parce que souvent, il y a eu beaucoup de circulation entre certains journaux qui naissent en France et qui partent, souvent s'exiler en même temps que leur rédacteur qui pourrait avoir été expulsé, etc. Donc il y a c'est un petit peu le nœud de ma réflexion, c'est essayer de faire ressortir les mécanismes de circulation des personnes et des idées. Voilà. Mais je suis encore au début, donc, mais je peux en parler quand même quand tu veux.
Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'A. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee, TIPEE.
Les bourgeois détestent l'anarchie.
Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.